que dire dans un culte de fin d'année, si ce n'est que faire un bilan, regarder ce qu'on a fait, regarder ce qu'on a emmagasiné, comment on a avancé, comment on a grandi, peut-être des pertes aussi. Mais en réfléchissant à ce culte d'aujourd'hui, ben, il y a un verset qui me trottait, et que j'ai partagé avec plusieurs d'ailleurs. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Effectivement, suivant ce que j'ai passé cette année, ben oui, je peux dire heureusement, c'est fini. Enfin, mais je nous propose d'aller quand même dans le texte qui englobe tout ça, on ne va pas tout dire. Donc je vous partage ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, d'abord ce verset. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ça se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 7, les 14 premiers versets. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci » car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Jusque-là, la lecture. Père éternel, nous voulons encore nous mettre dans l'humilité devant toi, devant ce texte, et te dire merci. Merci parce qu'il a traversé les siècles, merci parce qu'il est arrivé jusqu'à nous, et merci parce que tu vas encore nous donner ton message, ta parole. Pas moi qui parle, mais toi. Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur et les oreilles de notre cœur pour entendre ce que tu as à nous dire. Merci de mettre ta main sur nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Dans ce verset, c'est d'abord le « mieux vaut » que j'aimerais souligner pour commencer. Ce qui va certainement peut-être donner d'autres partages plus tard, vu qu'il y a quand même 32 « mieux vaut » et 19 « vaut mieux » dans le texte de l'Ecclésiaste de ma Bible, qui est la version seconde 1910. Vous pouvez, si on en prend à chaque dimanche, on a toute l'année. Mais bon, dans l'original hébreu, c'est pas comme ça que c'est écrit exactement, et voilà comment on l'exprime, voilà comment c'est écrit, est écrit le premier verset. Bon, un nom, plus que l'huile bonne. Bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le verset qui nous intéresse, bon, bonne la fin d'une chose, plus que son commencement. Bon. C'est meilleur. Rappelons-nous quand même que dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu vit que cela était bon, et même très bon, au commencement. Alors que dans le verset, on dit le contraire. On pourrait me rétorquer, oui, mais c'est la fin de la création, c'est la fin de ce qu'il a fait, c'était bon, c'était très bon. C'est la fin du commencement, alors. Non, pour les êtres humains que nous sommes, c'est le commencement, notre création, notre Dieu, a commencé, et c'est bon, c'est lui qui dit. Mais Dieu a comme mis en garde. Oui, tout est bon et tu peux tout en profiter, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Et c'est le même mot qui est étonnant, qui veut dire bon aussi. C'est le même mot qui dit mieux vaut, c'est bon. Mieux vaut que tu ne prennes pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est en Genèse 2, 17. On connaît la suite. L'homme, ce qu'il a fait, il a péché. Il est trompé. Nous comprenons peut-être mieux maintenant que l'Ecclésiaste qui nous donne l'impression d'une situation inverse quand il observe les hommes. C'est bon au départ et puis l'homme. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il nous fait, lui, l'Ecclésiaste, entrer dans le vif du sujet avec, dans la deuxième partie du premier verset, qui est un peu quand même hard, hein. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Et une chose évidente, c'est que dès le moment où on est, on sait très bien qu'on va mourir. Mais bon, ce proverbe est quand même un peu osé, j'ai quand même trouvé un peu macabre. Et de continuer avec ces versets, mieux vaut dans la maison du deuil, la maison de plaisir, ça n'arrange pas les choses, quoi, hein. Ça met quand même un peu du poids. Mais ça prend quand même tout son sens dans certains cas. De maladies incurables, par exemple. Et combien de fois n'entendons-nous pas cette expression « Pour lui, c'est une délivrance, quoi. » Mais c'est quand même les conséquences du péché. Mieux vaut. Mais que dire des autres personnes qui sont arrêtées violemment dans le cours de leur vie par une fin abrupte, sans rien. Que penser ? Serait-ce une injustice ? Il est sûr que l'auteur veut nous faire réfléchir sur ce qu'il a constaté. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est ainsi qu'il commence son livre, son plaidoyer pour une vie meilleure, oserais-je dire. Tout est vanité. Mais nous intéressons-nous peut-être un peu à cet auteur. Qui est cet auteur un peu mystérieux? Il se présente lui-même. Si vous lisez le début de l'Ecclésiaste, il dit lui-même, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Ecclésiaste qui est traduit de Coélète, qui signifie celui qui parle dans une assemblée ou encore celui qui rassemble. On le traduit aussi parfois par prédicateur ou maître, selon ce qu'on imagine que Coélète rassemblait tel ou tel groupe. Celui qui rassemble paraît un peu parfois étrange dans ce contexte. Il se dit lui-même roi de Jérusalem, fils de David, ce qui a fait dire à plusieurs que c'est Salomon qui a écrit. Tout le monde n'est pas du même avis, et c'est quand même que le livre historique raconte que Salomon a été un roi sage, d'accord, il était pieux, mais qu'il a quand même fini sa vie dans l'apostasie. Mieux vaut la fin de la vie. Sa fin de vie n'était pas meilleure que son commencement. Donc l'interprétation traditionnelle pense que Salomon était âgé, qu'il était repentant, qu'après avoir été apostat, ben, il est revenu sur de bons sentiments et qu'il ait écrit tout ça, qu'il soit revenu de son égarement, mais bon, voilà. Je vous laisse ça, parce que vous en avez peut-être entendu. Ouais, c'est Salomon, c'est... Tout le monde n'est pas du même avis, et même des grands théologiens disent que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, dans l'absolu, comment un roi sage aurait-il pu écrire ce qu'il a détaillé dans ce livre s'il n'avait pas vécu? Mais pour nous, quel enseignement, quelle richesse ce livre. L'Ecclésiaste, livre pour notre temps. Ah, on a déjà entendu ça quelque part, hein. L'auteur survole les grands problèmes de notre siècle et remet en cause les prétendues évidences concernant le travail, la sagesse, la vie humaine, la justice, les biens matériels et même, oui, même, la religion traditionnelle. Et je vous cite Ecclésiaste 4, 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Prends garde. Il met en garde contre, à l'époque, ce qui était la religion. Et c'est avec lucidité, il regarde, il compare, il s'interroge. Du même coup, ben, il nous oblige à réfléchir. à nous aussi, à nous interroger à notre tour. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de ma vie? Considère ton chemin. Quel est le sens de ton chemin? Quel est le sens de ma vie? Une bonne réputation, verset 1. Une maison de festin, verset 2. Une maison de joie, verset 4. Une maison pleine d'argent, verset 12. Et bien d'autres. Et il y a longtemps, peut-être que vous avez vu ce film, il y a Monty Python qui a fait un film qui s'appelait « Le sens de la vie ». Alors, avec plusieurs chrétiens et plusieurs groupes de jeunes, on va aller voir ce film. Mon Dieu, quelle catastrophe. Et je vous lis simplement un petit résumé. Le film enchaîne divers sketchs qui abordent les différentes étapes de la vie, de la naissance à la mort et au-delà, en passant par la guerre, la religion, l'éducation sexuelle, la quête du bonheur, le don d'organes et les matchs de rugby. Mais tout était poussé à l'extrême. Donc c'était un peu idiot, excusez-moi les choses, de prendre le sens de la vie dans ce sens-là. Pourquoi je vous parle de ce film-là? Parce que l'Ecclésiaste n'a rien à voir avec ça. Lui, il a vécu, il a réfléchi, il n'a pas fait de l'excès. Il s'est simplement considéré en disant « Mais regarde quand même le meilleur. Vise le meilleur. Mieux vaut. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mais pour arriver à cette conclusion, il nous donne quelques exemples. Alors, j'ai déjà cité la mort, évidemment, par rapport à la naissance, mais voici d'autres mieux vaut. Mieux vaut la bonne réputation qu'un bon parfum. Le texte original, c'est de l'huile parfumée, donc c'était un parfum d'huile parfumée. Une maison de deuil contre une maison de festin, le chagrin face au rire. Mieux vaut. Avoir un renom, moi je veux bien. Avoir un nom, être connu, bah c'est bien. Mais bon, préférer la mort, préférer le deuil, préférer le chagrin. Il y a quand même quelques difficultés. Alors on va peut-être essayer de creuser un peu plus loin, parce que pour nous en Europe, tout cela paraît quand même un peu provocateur. Mais pour bien comprendre, il faut se replonger à l'époque des us et coutumes de l'époque. Et en Orient, les enfants, à la naissance, étaient oints d'huile parfumée à la naissance. Ce qui nous dit qu'il vaut une huile parfumée aussi. Et la réputation naissait après la mort. Combien de peintres de leur vécu n'ont pas touché un bec de leur peinture et qui après sont devenus très riches et hélas posthumes. Tout ça, la réputation en Orient, c'était après la mort. Il fallait être mort pour être bien. Et nous retrouvons aussi dans la littérature juive une parole qui disait « N'aie aucune confiance en toi-même jusqu'au jour de ta mort ». Ça voulait bien dire que la fin, c'était le meilleur. Et alors, il est aussi rapporté une autre parabole qui enseigne qu'il ne faut jamais se réjouir au moment où part un navire, qu'il quitte le port pour aller en haute mer, mais lorsqu'il revient sain et sauf, après avoir essuyé bien des tempêtes. On comprend mieux un peu ce que veut dire l'Ecclésiaste. Et pour nous, les créatures, nous avons aussi tendance, nous, à nous réjouir quand même quand c'est terminé. Enfin, plus d'imprévu. Qu'est-ce qui va se passer? On commence quelque chose, mais comment ça va se passer? Et parfois, les débuts sont pénibles. Mais enfin, j'ai fini de payer ma maison. Ça y est, j'ai fini de travailler. C'est parfois pénible au début, mais après, au souffle. Mais au cœur de la tempête, c'est parfois la panique, le manque de foi, le découragement. Alors là, mieux vaut la fin quand même. Hein. Pourtant, nous avons tant de promesses. Tant de promesses où Jésus dit, et Dieu, la Bible nous dit, « Je ne t'ai pas dit que tu coulerais, mais passons de l'autre bord. Va de l'autre côté, passe de l'autre côté. Il n'a pas dit que tu coulerais. Je te conduirai au port désiré. Considère ton chemin, mais considère ce que je te présente devant toi. » Et nous regardons parfois la vie d'aujourd'hui avec ses crises et on subit. Oh, coup de fée sur la femme. C'était quand même mieux avant, hein, de mon temps, en cette époque-là, quand j'étais jeune, hein, au sublime. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'Ecclésiaste? C'est parce que vous avez remarqué. Verset 10, ne dis pas. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Autant on se le dit, hein, c'était quand même mieux avant. Mais c'est parce qu'on connaît. C'est parce qu'il va se passer. D'après l'Ecclésiaste, ce n'est pas sage de dire cela, parce que on n'a aucun pouvoir sur le passé, c'est fini. De même qu'on n'a aucun pouvoir sur le futur. Il faut absolument vivre le temps présent, avec le cœur et la sagesse. Et c'est cela, oui, qui déterminera notre sens de vie. Et pour ça, j'aimerais vous donner une petite illustration de deux personnages, deux courtes biographies de personnages bibliques tirées d'une méditation de Patrice Martorano, pour ceux qui connaissent. Et il s'agit juste de Démas et de Marc, donc deux compagnons de Paul. Et voilà, il démarre par lire ce verset dans 2 Timothée 4, 10 et 11. 2 Timothée 4, 10 et 11. « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Et un peu plus loin, au verset 11, « Prends Marc et amène-le-moi, car il m'est utile pour le ministère. » Considérons premièrement la vie de Démas dans un ordre chronologique. Les Écritures le mentionnent à 3 reprises. La première fois, elle souligne son statut de compagnon d'œuvre de Paul, Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Démas. Luc, mes compagnons d'œuvre. Démas avait bien commencé sa course, mais il l'avait mal fini. Il avait bien commencé comme compagnon avec Paul, mais Démas a abandonné. Regardons maintenant Jean, surnommé Marc. La première fois qu'il nous est parlé de son ministère, c'est pour évoquer son abandon. Jean, surnommé Marc, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. On trouve ça dans Actes 13, 13. Quelle tragédie de commencer le ministère par un abandon. Puis par la grâce de Dieu, son cousin Barnabas, fils de l'encouragement, s'occupa de lui. Durant une dizaine d'années, on n'entendit plus parler de Marc. Pourtant, il revint sur le devant de la scène. Paul lui-même l'appela son compagnon d'œuvre. Paul a déclaré qu'il fut utile pour l'œuvre du ministère, autrement dit, malgré un mauvais départ, Marc acheva victorieusement sa course. Bien ou mal commencer sa vie ne mène pas nécessairement à bien ou mal la finir. Quand il nous est dit de persévérer jusqu'à la fin, c'est de vivre ayant pour objectif de bien finir. De bien finir le bon combat et d'obtenir la couronne de victoire. C'est Paul qui dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Désormais, la couronne m'est réservée. Et dans l'Épître aux Hébreux, moi je terminerai par cela, il nous est dit, voilà, en Hébreux 13, 77, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle était la fin de leur vie et imitez leur foi. Considérons nos chemins et imitons. » Et dans Apocalypse 14, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est considérant toutes ces choses que l'on peut dire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'aimerais, pour terminer vraiment, appliquer ce principe de l'Ecclésiaste. Il commence, lui, par nous dire « vanité de vanité, tout est vanité ». Mais voilà comment il finit. Je lis les 2 derniers versets du chapitre 12 de l'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui a été caché, soit bien, soit mal. Alors pour terminer cette année qui se finit, nous pourrions dire mieux vaut sa fin. On sait comment elle a commencé, comment elle a continué, même celle d'avant, comment elles ont commencé. C'est sûr, on a vécu des galères, des crises, des deuils peut-être, mais l'Éternel nous a secourus. Nous sommes encore là. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Alors que pour cette année qui s'ouvre de devant nous, que notre seul vœu, notre seul engagement, notre seul désir soit de craindre l'Éternel et d'observer ses commandements. Et ce sera comme dans la Genèse, un bon commencement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Bénis à tous. Amen. Seigneur, merci parce que nous réjouissons parfois, souvent, parfois à la fin des choses. Nous voulons commencer cette année sachant que toi, tu as de bons commencements. Toi, tu es là devant nous, tu nous précèdes, tu avances avant nous et tu as tout entre tes mains. Toi, tu connais l'avenir. Seigneur, nous voulons pleinement te faire confiance et qu'à toi, une fois encore, revienne toute la gloire. Amen.